Donc faire communauté, c'est effectivement célébrer, alors célébrer par la joie, par la lutte. C'est toujours étonnant de voir progressivement en fait les revendications, notamment là l'appel à la dernière Pride de 2024, qui est très politisé. On est loin des paillettes quand même, et d'un côté juste de folklore, je dirais, de surface quoi. Politiser nos vies, c'est une réalité, parce que, comme vous expliquez, face à nous, il y a quand même des dangers qui utilisent aussi la politique pour amener plus de contraintes, plus de surveillance et d'oppression. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de guerre de classe, parce qu'on dépasse uniquement les droits LGBTQIA+, quoi.
Oui, bah c'est vrai que pour moi, l'intime et les politiques, et encore plus aujourd'hui, parce qu'en fait, le fait d'exister dans l'espace public, c'est soit remis en question par des mesures politiques, des abstentions, des votes qui se passent à l'Assemblée nationale, ou des propositions de loi qui sont transphobes ou qui remettent en cause des droits, et du coup de la nécessité en fait d'agir et de lutter. Pour rappeler que si, en fait, on a le droit d'exister comme on veut et comme on souhaite, que ce ne sont pas des lubies, qui n'existent pas de lobby LGBT, enfin, il faut arrêter avec ça, et même toutes ces pensées de lutter contre le wokisme, enfin, c'est bon, le fait de vouloir ramener les thérapies de conversion pour les mineurs transgenres, c'est effrayant, sous prétexte de les protéger les enfants, alors que clairement je pense que c'est faux. C'est pas une question de protection de l'enfant, parce que si on avait à cœur de prendre en compte les intérêts des enfants transgenres, bah on écouterait leur voix, on considérerait leurs besoins, et du coup on saurait que les accompagner dans leur transition, ça leur permet en fait d'acquérir un bien-être, de préserver leur santé psychique, mental, leur bien-être émotionnel. Et en fait, plutôt que de vouloir encadrer, psychiatriser, c'est par exemple ces démarches, il faut en fait toujours revenir pour moi à des notions de base qui sont en fait, ok, de quoi t'as besoin, comment je peux t'aider, de repartir de ce que la personne a besoin, et pas d'essayer d'aller chercher des spécialistes qui vont vous sortir des théories et des psychiatrisations qui, moi, je trouve... Enfin, ça me met des frissons dans le dos quand j'ai pu lire le projet de loi qui est... Projet de loi 435,
ouais, c'est ça.
Ouais, qui est passé à l'Assemblée, enfin qui a été validé au Sénat.
C'est Jacqueline Eustache-Brignaud.
Ouais, voilà, c'est chaud. Enfin, et puis même du coup, enfin moi je pense aussi à toutes les mesures que le RN a votées contre la communauté LGBT. Enfin, il y a une forme de vernis qui s'est imposée sur le Rassemblement national. Mais les mesures, quand tu regardes concrètement ce qu'ils ont voté, où là, ils se sont abstenus à l'Assemblée nationale pour les droits des LGBT, c'est pas OK, en fait.
Mais voilà, si on ramène concrètement à ce qui s'est passé, au niveau national, en 2023, le RN a lancé une association parlementaire pour combattre l'écriture inclusive, pour arrêter la propagande LGBT à l'école et la menace transgenre dans le sport féminin.
La menace.
Voilà, la menace transgenre, quoi. Donc il y a eu aussi en 2023 une proposition de loi qui a été déposée par le Rassemblement National pour bannir les personnes trans des compétitions sportives. Et du coup, en 2024, cette proposition de loi pour interdire aux mineurs trans de faire leur transition.
Comment en est-on arrivé là? Avez-vous l'impression qu'on a trop laissé se répandre l'influence des activistes?
Moi, ce que j'ai découvert, c'est la place qu'ils ont pris dans les ministères, dans les institutions, à la Haute Autorité à la Santé. La circulaire Blanquer de 2021, elle est issue de la place que prennent les transactivistes au sein même des ministères et au plus haut niveau de l'État. Alors, ils prônent la plupart d'entre eux l'autodétermination du sexe, même pour l'adolescent et l'enfant, ce qui est hallucinant. Nous ne sommes pas hommes et femmes, on a un sexe assigné à la naissance. Je pense qu'il y a une jeune génération de médecins qui est beaucoup plus influençable et influencée et perméable à cette logique un peu woke que d'autres. Nous, on a échangé avec des médecins qui ne parlent plus d'hommes et de femmes, mais de sexe assigné à la naissance.
Au niveau européen, les eurodéputés du Rassemblement national ont voté contre l'interdiction des tortures dont sont victimes les personnes LGBT. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, les thérapies de conversion, les thérapies d'aversion, en fait, qui ont un peu... pour objet de, par exemple, montrer à la personne trigger warning, violence et torture. de montrer à la personne des images pornographiques homosexuelles et en même temps de, d'envoyer des électrochocs. Donc voilà, c'est des thérapies qui sont encore utilisées et le RN a voté contre l'arrêt de ces thérapies. Pour moi, le mot thérapie est absolument pas pertinent dans ce contexte-là.
Pour rebondir, sur 9 votes organisés au Parlement européen sur les questions LGBTQIA+, le RN et Reconquête ont voté contre à 8 reprises. Elle fait notamment référence donc au vote en 2019 au Parlement européen de la résolution contre les discours de haine envers les personnes LGBTQIA+ en Europe et de la résolution proclamant l'Union européenne comme zone de liberté. Et en avril 2023, les députés d'extrême droite français étaient absent lors du vote pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Ouais. Donc ça a des implications aussi concrètes.
Oui, moi je pense que en fait il faut aussi regarder leurs actes. Alors parce qu'après quand vient le moment des élections, tout le monde part en campagne et tout le monde a des discours démagos. Et en fait il suffit de regarder dans leurs actes, là où se sont abstenus, là où ils ont voté contre, et c'est quand même très clair et net que pour moi le RN est un parti raciste. Et aussi anti-LGBT, faut se le dire, faut regarder leurs actions. Et en fait, de nécessité du coup à le visibiliser. Et moi, ce que j'ai peur en fait, c'est que si ce parti, déjà le score qu'ils ont fait aux élections européennes, pour moi c'est énorme. Et en fait, depuis, j'ai l'impression que ça donne une certaine de légitimité à des personnes, notamment dans la rue, pour nous agresser. Donc il y a une nécessité d'agir, de s'organiser, de trouver des solutions pour pas que ça continue, en fait.
Les règles de notre société, c'est que le mariage s'effectue entre un homme et une femme. Je ne pense pas qu'il soit positif de changer cette règle. Parce qu'alors, si l'on part de ce principe, on peut aller à la limite très loin dans la modification de notre civilisation. On peut aussi décider que, après tout, pourquoi n'a-t-on le droit que de se marier avec un homme? Pourquoi pas avec plusieurs?
Personne ne le réclame, ça.
Et vous aurez des gens qui le réclameront.
Est-ce que les homosexuels qui vivent en couple devraient avoir plus de droits?
Mais quels droits autres que ceux qui ont été obtenus par un certain nombre grâce au Pax? Quel autre droit que celui-là? Le droit d'adoption, je suis également contre.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose aussi de très circulaire, en fait, entre, du coup, la politique, les médias et les conséquences qu'il y a sur les personnes qui écoutent tout ça. Et je pense que, en fait, d'avoir aussi des médias et des politiques qui sont constamment en train de diaboliser les personnes LGBT, de dire qu'il y a un lobby, qu'on est dans une transmania, enfin, mais c'est complètement aberrant.
C'est un bouquin, ça, non?
Non, c'est un torchon. Du coup, les personnes, en fait, les personnes qui entendent ça en boucle tout au long de la journée vont se dire, bah oui, en fait, il y a un danger, il y a un réel danger face à ces communautés-là, et ça devient dangereux. C'est vraiment dangereux, en fait, pour nous aujourd'hui, ce qui se passe à la télé, à la radio, sur tous les plateaux des médias mainstream.
Ouais, c'est comme si, en fait, c'était de déshumaniser ou parler de personnes, en fait, on a l'impression, mais vous connaissez pas les gens, en fait. Est-ce que vous avez pris le temps de vous questionner? Est-ce que vous, dans votre entourage, que ce soit amis, travail, je sais pas, quand tu vas au sport, est-ce que dans tes cercles proches ou plus ou moins éloignés, t'as des personnes qui sont concernées, par exemple? Par exemple, est-ce que tu as des personnes trans? Est-ce que tu connais aussi des personnes queer? Est-ce que tu parles aussi du racisme avec des personnes non blanches dans ton entourage? Voilà, avant d'avoir peur de l'autre, est-ce que tu prends le temps de le connaître et de le rencontrer? Moi, il y a ça aussi qui, en fait, je pense, recrée du lien et humanise les gens. Et en fait, de te rendre compte que ces personnes, elles sont comme tout le monde, et d'arrêter de les diaboliser. Moi, je pense qu'il y a ce besoin-là aussi, du coup, de créer des espaces de rencontre pour que, en fait, ouais, c'est ça, pour que les gens lâchent leurs idées préconçues et leurs préjugés remplis de peur et de haine ou d'incrédulité face... je peux comprendre que pour des personnes, les transitions, les personnes transgenres, ça vient toucher à des fondements de l'identité, identification avec, par exemple, nos parents, nos grands-parents ont vécu, et de représentation, de construction identitaire qui est très fort, et que ça peut bouger et perturber et ne pas comprendre pourquoi ces personnes font ce qu'elles font, mais la nécessité de se décaler, en fait, de son point de vue et d'essayer de voir pourquoi cette personne fait ce qu'elle fait, en fait, ou tout simplement dire, en fait, c'est ton corps, c'est ta vie, Est-ce que j'ai quelque chose à dire là-dessus ? Ben non, je crois pas, quoi.
Mais ce qu'il faut aussi rappeler, on parlait de médias dominants, je prends l'exemple de Bolloré qui possède une partie des médias. Lui, il explique qu'il est dans une croisade culturelle, idéologique, il est ultra-catholique, il met au service de cette idéologie les médias, de toute façon, et ses représentations, voilà, d'un courant de pensée rétrograde.
Marion Maréchal attaquée en justice par des associations LGBT. On apprend ce jour que 6 associations ont déposé plainte pour injures transphobes contre la tête de liste aux européennes de Reconquête. D'après ces associations, Marion Maréchal aurait commis une injure à raison de l'identité de genre en déclarant sur X anciennement Twitter. C'est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d'interprétation féminine.
Et pour continuer aussi sur la réalité, j'avais Marion Maréchal Le Pen qui a déclaré que les associations de défense des droits LGBTQIA+ ne devaient pas être financées par les commissions européennes. Donc une nouvelle fois, la réalité c'est moins de visibilité, moins de possibilités de développement et de communication pour ces associations parce que face à elles, il y a un courant de pensée qui veut leur nuire clairement. Et on parlait aussi de dédiabolisation là, du Rassemblement National. Ils en ont parlé, ils ont fait leur coming out. Il y a des cadres du Rassemblement National qui sont gays et pourtant ils développent une idéologie très hétérocentrée autour de la famille. Ce petit vernis, là, je ne sais plus. Quelqu'un a parlé de vernis tout à l'heure.
Je pense que leurs privilèges sont tellement importants et sont tellement implantés à d'autres niveaux. Le fait d'être blanc, le fait d'être riche, d'avoir toute cette, de faire partie de ce milieu très aisé de la société. Et puis, enfin, il y a aussi que des hommes cis gays. Il y en a 3 d'après les médias. Enfin, j'ai cherché un petit peu hier. Il n'y a pas une seule femme lesbienne. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas une personne trans, une personne non binaire qui a été outée. C'est vraiment aussi très ciblé qui, je pense, est très représentatif aussi du patriarcat et de ce système de domination déjà en place.
Bien dit.
Entre nous, faut se protéger. C'est pas pour rire, même si on se marre. Parce que si on le fait pas nous-mêmes, personne s'en donnera la peine. Nous, on n'aime pas dénoncer. Sauf les flics et les PDG. Non, on n'aime pas dénoncer. On est des pédales, scandales, vandales. On est des PD, prénoms inventés, pronoms inversés. Toujours honnête avec la clique. Toujours mytho avec les flics. Toujours honnête avec la mif. Toujours mytho avec le fisc. Harnais sur cul bien huilé pour entretenir la passion. Hypocritement dimanché pour berner les institutions. Y'a pas de mystère, faut saboter. Faut saboter. Oh baby sex, baby suck, baby leak, baby cum. Oh baby sex, baby suck, baby leak, baby cum. On est des pédales, scandales.
De retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 MHz avec Amy et Joe du collectif Tilt. Juste avant la pause, donc, on parlait d'intersectionnalisme et je voulais, moi, citer le collectif La Grande Horizontale. On ne peut pas considérer les assos TERF d'aujourd'hui sans les inscrire dans l'histoire coloniale, appréhender leur culte sacré du genre sans l'envisager dans un continuum des massacres, entre autres culturels, blancs, envisager les mécaniques complotistes post-Covid sans y voir le modèle type d'un antisémitisme fondateur.
On a beaucoup parlé du coup de l'impact que la montée de l'extrême droite peut avoir sur les communautés LGBT, mais il va aussi y avoir un fort impact en fait sur les communautés non blanches, sur les communautés noires, sur les communautés racisées. Voilà, tout dépend de comment est-ce qu'on a envie de les nommer. Et il y a des exemples vraiment concrets. Je pense qu'aujourd'hui on a tous déjà assisté, par exemple dans la rue, à moi j'appelle ça des délits de faciès. C'est vraiment ce racisme ordinaire de la police qui va de façon hasardeuse, entre grands guillemets, choisir de mettre contre le mur quatre personnes racisées, de les fouiller complètement, d'arrêter des véhicules qui sont des personnes racisées qui les conduisent. Le podcast Semblant de Rien en parle hyper bien.
Dans le tout premier épisode, j'étais dans le métro et j'ai vu ce mec se faire arrêter par les flics.
Monsieur ?
Ça m'a marqué parce qu'en fait, les mecs qui s'étaient fait arrêter, ils avaient tous un truc en commun. Ils n'étaient pas blancs. Je me souviens avoir été trop choquée et puis avoir pensé cette phrase. Quelle chance d'être blanche. Parce que le blanc, c'était apparemment la carte passe-partout qui allait faire que j'étais pas en retard pour mon rendez-vous. En arrivant à table avec ma pote, je lui ai fait part de mon expérience, en partie parce que ma pote, elle est métisse, et j'avais besoin de lui montrer que j'avais remarqué, du coup que je ne suis pas raciste, et du coup mettre de la distance entre moi et les autres blancs de mon histoire, c'est-à-dire les flics et les passants. Elle a rigolé, elle m'a bien fait comprendre que les personnes blanches comme moi, on ne se rend pas compte de l'omniprésence du racisme parce qu'on ne le vit pas. J'ai fait semblant de ne pas comprendre en lui disant qu'on est tous humains, que je ne vois pas la couleur, et d'autres phrases récurrentes que j'avais apprises sans trop y penser, et que je lui répétais comme si elle ne les avait jamais entendues. Elle m'a aussi dit de dire noir, pas black. J'ai pas compris. Dire black, je trouve que ça me donnait un style. Après ça, j'ai fait des recherches toute la nuit.
C'est tout à fait probable qu'il y ait des policiers qui ne soient pas racistes, mais ça m'intéresse moins que de savoir et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que la répression policière touche majoritairement les non-blancs et en particulier les descendants de l'immigration postcoloniale.
Ça m'a choquée.
En fait, le racisme, il structure finalement nos sociétés. Ça veut dire qu'on le retrouve partout et qu'il est l'émanation en fait d'une histoire coloniale.
J'ai pas dormi. Après, j'ai compris la différence entre plein de mots que je pensais connaître, mais j'ai surtout compris un truc, je ne connaissais rien.
Et ça va aller en empirant. Si le RN passe au pouvoir, les demandes de régularisation seront suspendues, voire annulées. Le droit du sol et du regroupement familial sera supprimé, et donc un isolement accru des personnes immigrées. Et si, moi j'ai envie de dire malheur, on se retrouve à l'intersection entre queerité et personnes non blanches, c'est un peu, tout à l'heure on disait ça en rigolant, mais ça me fait pas rire du tout, si on a touché le jackpot, entre guillemets.
Que le racisme, c'est un système qui est complexe, et qu'en fait, en tant que personne blanche, on en tire aussi des bénéfices et des profits. Et qu'en fait, quand on se décide aussi de regarder tous les privilèges que ça nous importe, parce que souvent on nous enseigne à l'école ce que c'est le racisme, comme quoi c'est un acte individuel discriminant, mais on ne nous enseigne pas tout ce que ça nous apporte aussi. Et je pense qu'il y a nécessité à le visibiliser et en fait à décider de s'en soustraire aussi pour venir en soutien aux personnes racisées non blanches. Enfin, c'est de... Et aussi d'intervenir quand il se passe des choses et quand on voit, en fait, même quand on entend des propos ou des paroles racistes, bah de ne pas laisser couler. Et ça ne veut pas dire, en fonction de la personne et de l'interlocuteur et de ce qui s'est passé, mais d'intervenir avec une réponse plus ou moins pédagogique sur le moment où s'il y a besoin de se défendre, mais aussi de se positionner vraiment en soutien et en allié. Moi, je pense que ça vaut pour le racisme, mais ça va aussi pour les personnes de la communauté LGBT, en fait, d'intervenir et de se positionner en soutien quand on assiste à des paroles discriminantes.
Ouais, et pour pouvoir aussi soutenir au mieux, je pense qu'il y a cette question de s'éduquer Il y a des super essais, bouquins, textes sur les réalités des personnes afrodescendantes, des personnes racisées aujourd'hui. Là, cette année, Douce Di Bondo, elle a sorti un bouquin sur la charge raciale, inspiré de la charge mentale qui avait été développée par Emma, de la charge raciale. Comment est-ce que au quotidien, une personne racisée ou une personne noire, elle fait le distinguo dans son essai, va utiliser plein de mécanismes pour paraître le moins noir, le moins racisé possible, en fait. Et ce sont des choses de la vie quotidienne. Enfin, moi, j'ai réalisé, en fait, que à chaque fois que je détache mon vélo dans l'espace public, j'ai peur que les gens aux alentours croient que je suis en train de le voler. Voilà, donc on est dans en fait une telle charge raciale, un racisme intégré tellement fort. Et qu'on continue d'entendre en fait dans les médias que il y a des problèmes avec qui on est réellement, ça crée une dissonance cognitive et ça devient très compliqué en fait d'être dans l'acceptation de soi et de s'épanouir. Ouais, voilà, de s'épanouir. Je redescends la fin de ma phrase. Point.
La charge raciale, si on devait résumer, c'est le poids qu'on porte dans une société majoritairement blanche en tant que personne racisée. Quand je vois ce silence autour de la charge raciale, je veux investir ce silence, je veux poser des questions et je veux déranger justement. Cette charge raciale, elle a, on va dire, trois volets. Une charge qui est historique, qui vient donc du passé esclavagiste, colonial de l'Occident. Une charge qui est, on va dire, institutionnelle, face aux institutions que sont la police, le milieu médical, mais aussi les institutions comme la famille et le couple. Et enfin, une charge qui est intra-personnel, c'est-à-dire qui est lié à comment on se pense en tant que personne racisée. Et c'est cette charge qui nous oblige, en fait, à être dans une injonction à adopter des stratégies d'adaptation. Dès le plus jeune âge, dès petit, on comprend que notre couleur de peau, la manière dont on est vu par la société, nous renvoie à l'autre, à l'étranger, à la personne qui n'est pas tout à fait d'ici, qui n'est pas tout à fait du territoire français. Et donc, on veut appartenir, ce qui est normal, et donc on va copier les codes des majoritaires, la manière de parler, la manière de s'habiller, lisser l'accent, par exemple, si on vient de quartiers populaires, s'habiller d'une certaine manière pour appartenir. Mais en fait, donc ce génie de l'adaptation-là, le fait qu'on sache tous ces codes-là, en fait, ça a un prix. C'est un prix émotionnel, c'est un prix psychique, c'est un prix financier aussi. Et ça nous coûte beaucoup de porter ces masques-là. Donc, en effet, on sait s'adapter, on est des caméléons. Mais à quel prix, en fait, le prix émotionnel, le prix physique et le prix psychologique. Il y a aussi le rapport dans l'espace public quand on se confronte à la police, par exemple. Là aussi, il y a quelque chose qui se joue de cette charge raciale. Comment éviter la police? Même moi, en tant que femme, je suis moins contrôlée par la police. Mais pourtant, quand je vois un homme noir, un homme racisé se faire arrêter par la police, j'ai mon cœur qui serre, je veux sortir mon téléphone parce que je me dis, il pourrait y arriver quelque chose. Il pourrait y avoir ce basculement-là. Donc ça, c'est une charge aussi, en fait, qu'on se porte.